Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois David Shapiro qui est CEO de l'agence Boomerang Agency. Salut David, comment tu vas ?
Bonjour, très bien et merci de me recevoir.
Je suis ravi de t'avoir avec nous au micro de J'ai un pote dans la com. Tu vas nous parler social media aujourd'hui puisque c'est l'expertise de l'agence. Tu vas essayer d'abord de nous présenter un peu l'univers que vous proposez à vos clients, l'ADN que vous pouvez avoir et surtout, on va essayer de comprendre comment vous fonctionnez. On va essayer de comprendre le social media en paid, on va essayer de comprendre en organique, on va essayer de comprendre aussi où est la place de l'idée dans tout ça. Si tu veux bien, pour débuter, est-ce que tu peux nous pitcher un peu Boomerang Agency, nous raconter un peu ce que vous faites?
Déjà, c'est passionnant. On m'a jamais aussi bien introduit. Merci. Merci beaucoup. Boomerang Agency, c'est une agence social media 100% organique. 100% organique, globalement, ça veut dire qu'on accompagne les marques sur leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Et ça, on le fait vraiment dans toute la chaîne d'action qu'on peut avoir. À la fois en amont avec des équipes stratégie. Donc, on a, comme dans des agences de com classiques, des équipes de planning strat avec de la création. Donc, on a des équipes aussi de strat et de création, évidemment. On a aussi des équipes intégrées de prod, puisque quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, eh ben, on fait aussi de la production. Et on a des équipes de community manager et de social media manager. Donc vraiment, on a toute la chaîne, avec bien sûr des chefs de projet, des account managers qui sont les chefs d'orchestre. Mais on a toute la chaîne pour accompagner les marques sur leur prise de parole sur les réseaux sociaux. On accompagne trois grandes typologies de marques aujourd'hui sur ces réseaux. À la fois des marques de grande conso que tout le monde peut connaître, Red Bull, Lacoste, le groupe Accor, voilà, pour citer que c'est les plus gros. On a la chance de travailler vraiment avec des très grosses marques. Aussi, historiquement, on travaille avec des institutions publiques, les tout premiers à nous avoir fait confiance, et c'est une belle image, c'est Pôle emploi à l'époque, France Travail maintenant. Et depuis, on a développé ce réseau d'institutions, on travaille avec la RATP, là, pas mal d'enjeux avec les JO qui arrivent. On travaille avec la mairie de Paris, pareil, pas mal d'enjeux avec les JO. Et depuis peu aussi, La Poste, hein, on va lancer leur compte TikTok. Donc, c'est aussi d'autres façons de travailler, on aura peut-être la chance d'en parler après. Et ce qui nous permet d'être vraiment experts sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec les réseaux en direct, puisqu'on a le groupe Meta, qui a été pendant très longtemps un de nos plus gros clients, Snapchat et aussi Pinterest. Et ces trois acteurs-là, on les accompagne dans la relation qu'ils ont avec les créateurs de contenu. Parce que aujourd'hui, ils s'adressent au grand public, ils savent très bien le faire. Mais quand ils sortent une nouvelle feature, quand ils sortent un nouvel outil, ils ont besoin d'aller fidéliser les créateurs autour de cet outil. Et là, nous, on intervient pour les aider, que ce soit de l'événementiel physique ou alors des activations social media. Mais ça nous permet de connaître très, très bien tout cet univers-là. Donc voilà, Boomerang qui en est, une agence vraiment positionnée sur l'accompagnement des marques au quotidien.
Vous vous définissez comme une agence qui travaille essentiellement sur l'organique, une agence social media basée sur l'organique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On a beaucoup tendance aussi à parler aujourd'hui uniquement de paid, hein, d'achat, médias. Il y a beaucoup d'agences social qui font que de l'ads. Comment tu vas réussir à vous définir? Comment tu vas réussir à nous expliquer un peu la différence?
Avec brio. Déjà, pour comprendre, pour nous, notre premier acquis, c'est que sur les réseaux sociaux, on fait pas de la publicité, mais on fait du contenu. Ça définit ce qu'on fait et qui on est. Pourquoi? Parce que sur les autres médias, évidemment qu'on fait des formats de pub et ça marche très bien sur les autres médias. Sur les réseaux sociaux, il faut être un petit peu différent. L'idée, c'est que l'organique, déjà, il y a trois, on va dire, éléments principaux qui fait ce qu'est l'organique aujourd'hui. L'organique, c'est la créativité, déjà. Quand on prend la parole sur les réseaux, il faut le faire en étant créatif. Ça paraît archi basique de dire ça, parce que de toute façon, il faut être créatif dans la pub en règle générale. Mais peut-être d'autant plus sur les réseaux sociaux parce que on parle de mouvement permanent. Les contenus changent, les tendances elles changent, la manière de faire du contenu elle change. Donc, il faut être tout le temps au devant de ce qui se fait et tout le temps faire des tests encore et encore et donc être vraiment très créatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'authenticité. Quand on est une marque et qu'on fait de la publicité sur les autres médias, on a l'habitude de faire un contenu qui, encore une fois, qui va être très descendant. Ma pub, c'est mon message de marque, c'est super. On arrive sur les réseaux sociaux, c'est différent. Parce que bah les gens, ils ont pas envie de voir ça. Les contenus qu'ils voient sur les réseaux sociaux au quotidien, c'est quelque chose qui leur ressemble, qui fait appel à leur quotidien, qui répond à des problématiques parfois qu'ils ont. Donc en fait, les marques, elles doivent s'adapter et avoir cette même authenticité, faire du contenu qui va être vraiment presque moins produit. Et ça, c'est très dur pour les marques, hein. Il y a des marques qui mettent des centaines de milliers d'euros sur des contenus publicitaires classiques. Pour un même budget, là, on va faire plus de contenu. Ça veut pas dire faire moins bien, ça veut dire faire différent et être plus authentique. La troisième clé, c'est l'incarnation. Sur le social media, on attend beaucoup plus de voir des hommes, des femmes, des histoires personnelles plutôt que des histoires de marque. N'importe quelle marque, quand elle va prendre la parole sur les réseaux, elle va le faire, en tout cas nous c'est ce qu'on conseille, elle va le faire en se faisant représenter par une personne. Les meilleurs exemples, et c'est pas nos clients donc je peux en parler, c'est Jacques Mus ou Cédric Grolet par exemple, des marques qui ont explosé sur les réseaux, mais parce que c'est des marques où l'aspect perso-pro, il est très très fin. Jacques Mus sur son compte, il va autant, c'est autant son compte de marque que son compte perso où il met des photos de son mariage et de son chien. Donc c'est ça qui va être intéressant. Évidemment, des marques plus grand public, accord, ils vont pas mettre des photos du chien du CEO, ça marche pas. Mais ils vont essayer d'aller chercher cette authenticité et cette incarnation avec, par exemple, France Travail avec qui on travaille. Ils vont mettre des conseillers sur TikTok. C'est beaucoup plus pertinent que ce soit des conseillers qui prennent la parole et qui répondent à des questions d'utilisateurs plutôt que le nouveau DG qui vient d'arriver, qui a bien sûr plein de réponses, mais ça n'a pas de sens sur les réseaux. Donc, si on a ces trois clés-là, on fait de l'organique et on va avoir un contenu qui va être beaucoup plus performant à terme que simplement du paid qui va servir d'autres objectifs. Mais pour nous, l'organique, c'est vraiment la valeur clé du succès sur les réseaux aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas peut-être plus engageant? Est-ce que c'est pas plus dur de faire de l'organique? C'est-à-dire que lorsqu'on est sur une mécanique assez simple de campagne, on se dit, OK, on va faire sa campagne télé, on va la déployer, on va peut-être faire un petit format aussi pour le social. Mais finalement, on va mettre du budget média et quoi qu'il arrive, on va arriver à nos objectifs de perf. Est-ce qu'à l'inverse, quand on est full organique, on n'a pas ce besoin, même cette obligation d'être bon sur le fond et donc sur l'idée? Versus un format qui est très cool, hein, qui peut être très léché, mais qui, quoi qu'il arrive, va avoir 200, 300 000 de diffusion média.
C'est sûr, c'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus challengeant. Le premier élément de réponse, c'est qu'on peut faire une stratégie organique qui répond à des strates médias par ailleurs. C'est-à-dire que même si on rajoute un élément de strate, effectivement, c'est pas forcément scindé en deux. Donc, on le fait déjà, nous, pour nos marques, on raccroche à des strates médias. Mais oui, c'est plus challengeant. Et pour nous, ce qui va être intéressant ici, c'est pas forcément... Enfin, c'est la valeur des vues. Effectivement, quand on fait du paid, on aura le nombre de vues à la fin, mais ça va servir des objectifs différents. Le paid, ça va servir des objectifs de vues, ça va servir des objectifs de performance parfois, effectivement, puisque oui, si on fait 3, 4, 5, 10 millions de vues, on aura, en termes de performance, beaucoup plus de taux de clics sur notre offre, si on a une offre commerciale très précise, par exemple. Mais nous, on va servir des objectifs différents. Quand je dis nous, il n'y a pas que Boomerang aujourd'hui qui sert l'idée de l'organique, mais en tout cas, quand une marque prend le choix de l'organique, elle va servir des objectifs différents. Elle va servir des objectifs de notoriété, mais de notoriété avec l'image de marque. Aujourd'hui, ça fait partie des challenges de certaines marques qui viennent nous voir. Sans citer une marque, là, très récemment, on a eu un brief d'une marque qui est venue nous voir en disant, voilà, on a fait des campagnes paid, ça marche pas. Ça marche pas, on est une grosse marque, mais on a toujours une image un peu vieillissante, un peu pas belle aujourd'hui. Et en fait, on se dit, on n'a pas essayé l'organique, on n'a pas essayé de se coller vraiment au code des réseaux aujourd'hui, en fait. Donc, on veut essayer ça et on est persuadé qu'après que la campagne soit faite et après que les contenus soient sortis et qu'on arrive à installer quelque chose de plus récurrent avec eux, ça va fonctionner auprès des utilisateurs puisque, encore une fois, on va les toucher au plus près. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On va être dans leur quotidien, on va leur répondre à des problématiques particulières. Donc, ça sert pas les mêmes objectifs, mais oui, c'est plus challengeant en termes créatifs, en termes strat. Ça demande des couches supplémentaires qu'il n'y avait pas avant. Et ça, je te rejoins.
Par rapport à ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Je sais pas si tu avais passé, j'imagine que oui, les différentes perfs de Orange sur TikTok qui ont toujours, qui ont des scores assez fous et qui, je pense, ont bien saisi cet enjeu-là de incarner sa marque, exploiter les trends et d'être dans une logique d'organique. Et pour ceux qui nous écoutent, hein, allez voir, faut aller checker ça. C'est hyper intéressant de voir comment ça performe. Surtout une brand qui est Orange, qui est quand même hyper implantée, qui est hyper hyper statutaire aussi. Orange, c'est une des plus chères du marché. Donc, il y a un côté, c'est la qualité, on prend un peu de hauteur. Et là, ils ont une proximité avec l'audience qui va bien et qui va dans ton sens. Et ce que tu racontes est du coup assez juste par rapport à tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous, à l'agence, vous avez identifié peut-être une trend ou un contenu qui marche un peu mieux que les autres? Tu as parlé d'incarnation, tu as parlé de mise en avant, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a un format qui marche mieux, la voix off avec de l'image, le visage à l'écran? Qu'est-ce qui est un peu le banger en termes de format?
Ça serait tellement bien qu'il y en ait un qui marche mieux que les autres. Mais en vrai, je trouve que c'est mieux que ce soit pas le cas. Parce que c'est aussi ça qui fait la spécificité des réseaux. C'est que justement, c'est pas comme à la télévision. Je critique pas la télévision, mais où c'est des formats plus actés et où on n'a pas forcément besoin de repenser le format. C'est une pub de 30 secondes, super. Après, on est plus ou moins créatif dedans. Là, le format, il change constamment. Et pourquoi? Parce que déjà, en fonction du réseau, le format est très différent. Et ça aussi, c'est spécifique au réseau. Quand on fait une campagne sur Twitch ou quand on fait une campagne sur TikTok, on peut pas dire qu'il y a un format qui va être supérieur à l'autre. C'est tellement différent par réseau. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de dire, est-ce qu'on répond aux fondamentaux qu'on s'est fixés? La créativité, l'authenticité, l'incarnation. Est-ce qu'il y a ces trois éléments clés pour nous? C'est ça qui fait la rigueur et qui va faire le succès derrière. Est-ce qu'on va avoir des taux d'interaction qui fonctionnent? Mais je pense pas qu'on puisse dire que aujourd'hui, même si on pouvait le dire d'ailleurs, si on pouvait dire aujourd'hui, par exemple, oui, l'incarnation avec effectivement le visage en face cam et quelque chose de vraiment très direct qui accroche l'œil, ça marche plus aujourd'hui. Peut-être que dans 3 mois, c'est un contenu qui sera totalement désuet parce qu'on sera passé à une autre forme de contenu à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de faire de la veille. Nous, on a la chance d'avoir des équipes en interne qui en font beaucoup. Chaque semaine, on se prépare et on se présente. Enfin, nos équipes strat et nos équipes créa présentent ce qu'eux, ils appellent les strategic finds et les creative finds à toute l'agence pour dire voilà ce qui se fait ailleurs, voilà les succès, voilà aussi les échecs. Comme ça, on apprend. On apprend et on est toujours capable déjà d'être au fait de ce qui se passe, mais aussi d'en parler. Parce que souvent, avant même de proposer toute une campagne, l'idée, c'est déjà de dire au client, tiens, on a vu ça, qu'est-ce que t'en penses? On pense que ça peut être bien. Et c'est aussi de faire du travail au quotidien de d'éducation. C'est un grand mot, éducation, mais il y a beaucoup de clients qui connaissent pas le social media. Donc, sur la typologie de format, il en existe plein, et bien heureusement, parce que ça nous permet de jamais faire la même chose. Et ça, c'est cool.
Finalement, il y a aussi une logique d'éditorialisation de la brand et raconter son histoire toute l'année. Comment on fait pour justement associer, faire en sorte que ça matche bien entre la stratégie globale sur les réseaux sociaux, déjà par plateforme, pour pas qu'on soit en dissonance entre la marque commerciale, la marque employeur, ce qui est dit sur TikTok versus sur Facebook ou ailleurs. Comment on fait pour travailler tout ça et que lorsque on fait un travail d'édito toute l'année, ils viennent pas en opposition à une campagne ou une OPS, parce que parfois on peut avoir la bonne idée sur une campagne, mais elle peut venir un peu chahuter ce qui est déjà écrit toute l'année. Et en organique, c'est aussi le fer de lance. L'organique, c'est de travailler des bons contenus récurrents pour nourrir l'algorithme, parce que c'est pas toi que je vais l'apprendre. L'algorithme aujourd'hui, il se nourrit des perfs, donc
c'est pas vrai.
Plus tu perfs, plus tu vas être mis en avant. Donc comment on fait pour garder cette performance-là, ne pas tomber en opposition avec tes campagnes qui parfois, elles, peuvent être boostées de manière payante et du coup vont peut-être dire à l'algorithme, les gars, vous avez vu tous nos contenus, on est obligé de les pousser pour qu'ils soient vus et du coup l'algorithme va dire, ouais, mais du coup ça veut dire qu'il est pas bon. Enfin, tu vois, comment vous faites pour vraiment associer les deux et pas vous perdre?
Déjà, la première réponse, c'est le chapeau strat. Enfin, pour pas se perdre déjà dans la ligne édito. Encore une fois, je le redis, mais l'équipe strat qui est en interne à l'agence, elle donne le ton et la ligne éditoriale pour après les créations qui vont arriver et même la prod par ailleurs. Donc, on répond toujours, peu importe, à ce chapeau strat. Quand une marque, elle vient nous voir, elle a déjà un chapeau strat plus global et dans lequel nous, on va s'inscrire et on va creuser un sillon supplémentaire sur les réseaux. Mais déjà, une fois qu'on répond à ça, on sait qu'on va pas dans tous les sens et qu'on a cette capacité. Et après, pour répondre sur l'aspect un peu balance entre paid et organique, en fait, les deux sont complémentaires. Pendant très longtemps, quand on a commencé, et d'ailleurs, nous, quand on est arrivé, on mettait en opposition ces deux mots-là presque. On disait, effectivement, les agences social media, elles font du paid. Elles font que ça, l'organique, c'est bon, ça sert à rien, c'est l'inverse du paid, et puis on s'en fiche. Nous, on vient de dire, c'est vraiment, vraiment 100% complémentaire dans la mesure où plus on va être capable de faire du contenu toute l'année, plus on va faire des test and learn en organique, plus on va travailler son identité marque, sa notoriété, la fidélisation avec ses clients, plus les campagnes qu'on va faire par ailleurs pour de la performance, elles vont être performantes. Parce que c'est tout bête, hein, mais si on a déjà l'habitude d'avoir entendu le message de marque, si on a déjà une affinité avec la marque au moment où on va faire la campagne, versus, à l'inverse, une campagne sortie de nulle part pour une marque qui a jamais été sur les réseaux, ça paraît évident, mais la performance, elle sera moins grande. Et sur les algorithmes, aujourd'hui, de toute façon, les marques et les réseaux, pardon, ils ont l'habitude que les marques fassent appel aux algorithmes. Évidemment, l'idéal, c'est d'être capable de pas en faire du tout. Le meilleur exemple en interne pour nous, c'est Red Bull, puisque ça fait presque 4 ans maintenant qu'on les accompagne sur leur compte TikTok. Et ils les ont lancés en 100% organique. Ils ont jamais fait de campagne. Aujourd'hui, en France, c'est l'un des premiers comptes de marque. Ils ont 1,4 million d'abonnés. Évidemment que le contenu Red Bull, il est exceptionnel et que ça aide. Mais souvent, c'est du contenu pris à la volée, sur des tournages, par exemple, un des contenus qui a fait, je crois, 30 millions de vues, c'est des créateurs de contenu qui dansaient sur une trend à l'époque et ça avait vraiment, mais cartonné dans le monde entier. Mais parce que, voilà, c'était Red Bull, c'était organique et tout ça. Ils ont jamais fait de campagne, ça a fonctionné. Maintenant, il y a d'autres marques qui font des campagnes. Si c'est bien placé, si c'est fait à bon escient, ça va pas perturber l'algorithme puisque de toute façon, le contenu, s'il est fort, il va marcher. C'est à la fin de la fin, l'algorithme, c'est un prétexte. Mais si le contenu, il est bon, ça va marcher.
Comment on fait aujourd'hui pour ne pas se tromper et être à la course, à l'engagement, au like, etc. et respecter la strate de la brand? Parce qu'il y a des marques qui n'ont pas vocation ou ne correspondent pas à un certain nombre de trends. Comment on fait pour être dans le bon niveau de... Oui, il faut pousser un peu son client à sortir un peu des sentiers battus et à tester les choses. Et en même temps, il y a certains clients, certaines marques qui vont ne pas être en phase avec leurs valeurs de marque en faisant tel ou tel trend. Comment on leur dit non, on ne le fait pas, ou justement on y va? Parce que là, on voit beaucoup de choses, notamment sur TikTok, qui fondamentalement sont... Oui, performe, parce qu'on a une sorte de divertissement regardant et en même temps un peu de voyeurisme aussi, mais qui ne sont pas forcément la safe place parfaite pour certaines marques.
Je pense que tout est une question déjà de connaissance de la marque et de la cible. Notre positionnement, et je te rejoins, c'est de pas dire qu'il faut aller partout, ni de dire... D'ailleurs, notre positionnement, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, il est plus de dire qu'il faut faire des trends. Une marque, si... La trend, elle colle parfaitement à un message qu'on veut donner à un moment donné et que oui, ça répond à une problématique qu'on a, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais notre façon de voir les choses, c'est pas de dire que quand une marque, elle arrive sur les réseaux pour faire de l'organique, il faut faire de la trend. Parce qu'en fait, c'est malaisant, je suis d'accord avec toi, ça répond pas forcément aux besoins, c'est pas ce qu'on attend de la marque, parfois c'est forcé. Nous, c'est de dire, l'organique, c'est la vraie créativité. C'est parfois de prendre la parole sur des formats qu'on n'a pas forcément vus ailleurs ou alors qu'on a vus chez des créateurs de contenu mais qui sont pas des tendances en tant que telles, juste des formats qu'on aime bien et qui répondent à nos besoins. Donc, je te rejoins. L'idée, c'est pas de se perdre et d'essayer de faire quelque chose parce que tout le monde le fait. S'il y a une bonne raison de le faire et que ça répond à un message, allons-y, franchement, ne nous embêtons pas. Mais si ça n'y répond pas, à nous de créer du contenu qui soit novateur et qui soit différent. Parce qu'en fait, c'est là aussi on va nous apprécier. C'est que aujourd'hui, La Poste qui se lance sur TikTok, on va le voir, mais on va prendre des choses un peu différentes et on a hâte de le montrer. Mais on va pas suivre des trends à proprement dit. On va créer notre propre univers autour de ça et on est persuadé que ça va marcher.
J'ai une question un peu plus économique aujourd'hui là avec toi. C'est sur la santé financière d'une agence de contenu comme la tienne en social media. Comment elle fait pour s'en sortir en termes de volumétrie de contenu qu'il faut sortir? Comment vous vous organisez? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas toi que je vais l'apprendre sur le nombre de contenus qu'il faut sortir. Toutes les marques n'ont pas vocation à prendre la parole tous les jours, tout le temps, H24. Par ailleurs, plus t'as du client, plus t'as de la plateforme à gérer, plus t'as du contenu à sortir. Donc, c'est des expertises aussi qu'il faut avoir en interne. Au-delà des idées, il faut aussi des gens pour les produire. Ces idées, comment vous vous organisez? Comment vous avez une feuille de route? Comment vous arrivez à vous y tenir? Et comment vous faites en sorte de faire grandir l'agence tout en gardant, je sais pas combien vous êtes aujourd'hui?
35.
Voilà. Une taille, j'ai dit une taille raisonnable. C'est comment vous gardez ça? Parce qu'aujourd'hui, 35, c'est beaucoup. Et en même temps, pour d'autres types de structures, c'est pas énorme. Quand on sait le volume qu'il faut sortir, notamment avec les clients que tu viens de citer, comment on fait?
C'est de répondre avec plusieurs offres commerciales. D'abord, effectivement, on est d'accord, on revient, nous, de cette course au contenu déjà, de dire il faut pas produire trop, mais il faut produire bien et pour les bonnes raisons. Donc, on a plusieurs offres commerciales qui vont être plusieurs typologies de services différents. On va aujourd'hui faire pas mal de conseils. Donc, notre équipe Strat, elle arrive aussi parfois juste pour donner des idées de Strat. Par exemple, ça a été le cas avec Accor, il y a 2 ans, qui était venu nous voir à la base uniquement sur des idées strat. On aimerait se lancer sur les réseaux. Proposez-nous une ligne éditoriale et comme ça, on réfléchit en interne si ça nous va ou pas. Ou alors, on a des équipes en interne qui peuvent le faire. Juste, on a besoin de vous pour nous aiguiller. Donc, on a ce premier service-là. On a le service aussi d'accompagnement à l'année. Donc oui, effectivement, là, on a les content créateurs qui sont en interne. On a aussi la créa. On a aussi la prod avec des plus grosses prods de vidéos. On va le voir, mais enfin, je sais pas si on va le voir, mais avec France Travail, par exemple, je vais en parler. On fait des web-séries sur YouTube où on fait 6 épisodes, par exemple, pour mettre en avant des métiers. Donc, c'est des plus grosses vidéos qui demandent des plus gros budgets. Ça, c'est notre deuxième offre. Et notre troisième offre, c'est l'influence. Aujourd'hui, on fait beaucoup de contenu avec des influenceurs aussi qui nécessitent pas forcément donc autant de bandes passantes en interne que si c'était nous qui produisions. On n'est pas une agence d'influence dans le sens où on représente des influenceurs, on n'a personne signé en exclusivité, mais c'est ce qui nous permet d'être plus objectifs dans le choix justement des créateurs de contenu. On n'en a pas parlé jusqu'à là, mais l'influence, c'est un gros sujet sur le social media, c'est un gros fil rouge. Je parlais tout à l'heure d'incarnation, c'est eux le meilleur exemple de l'incarnation sur le social media. Il y a pas d'influenceurs ailleurs que sur les réseaux. Parce que c'est des humains qu'on aime suivre, on connaît leur histoire, c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais nous, aujourd'hui, on vient de l'univers de l'influence. Mon associé et moi, on était agents d'influenceurs avant dans des grosses boîtes, Webedia, pour ne citer que à l'époque des gros influenceurs et de talent web. Et on a vu que le modèle, il a ses limites dans le sens, quand une marque vient nous voir et vient dire, bah, on veut travailler avec des influenceurs, qui vous nous proposez? Forcément, commercialement, on va proposer ceux qui sont partis de notre pool parce que, bah, on a des contrats d'exclusivité avec eux. On a des minimums garantis, enfin, financièrement, il y a quelque chose. Donc, on va se dire, on va proposer cela. Là, nous, on se dit, aucun problème. On propose celui qui est le plus pertinent pour nous. Peu importe chez qui il est, peu importe avec qui il travaille. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est pertinent avec la campagne. Donc, on est fort de proposition là-dessus. Et pour répondre sur un point que tu as dit, sur demain, si les marques, elles veulent plus produire, mais moins travailler avec des agences, on commence à se transformer là-dessus sur de la formation. C'est-à-dire que il y a beaucoup de marques qui nous demandent former nos content créateurs en interne. Et c'est une vraie offre qu'on est en train de développer, de dire, bah, OK, on a, nous, des content créateurs, on a des plateformes qu'on commence à faire. Et la formation, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on sera aussi content de donner nos connaissances aux différentes marques. Donc, c'est créer tout un univers d'offres, parce qu'effectivement, si on se restreignait au contenu, on peut très vite être dépendant et très vite être dans une hyper croissance obligatoire permanente, ce qu'on veut pas, nous.
Aujourd'hui, je m'as rapidement évoqué France Travail. Tu peux me parler de ce que vous faites avec eux?
Quand ils nous ont fait confiance, on n'était que deux, mon associé et moi, vraiment. Ils nous ont tendu la main, ils ont fait leur travail de service public vraiment au sens premier du terme. Et aujourd'hui, on les accompagne sur... On a deux marchés publics avec eux aujourd'hui. Celui des réseaux sociaux. Donc, on les accompagne avec une autre agence qui s'appelle 5e Rue sur leur prise de parole sur tous les réseaux, que ce soit X, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, même si on a encore un peu de mal pour l'instant à trouver la bonne manière d'arriver sur Twitch. C'est le réseau le plus difficile pour tous les médias, enfin, pour toutes les marques aujourd'hui. Et on a aussi un deuxième marché qui est la production audiovisuelle. Et là, j'en parlais tout à l'heure, on fait beaucoup, beaucoup de contenu pour mettre en avant des métiers en particulier. La grosse problématique de France Travail, c'est que ils ont rien à vendre. Enfin, c'est pas une marque qui veut vendre des produits. L'intérêt de France Travail, c'est que les gens postulent à des offres et trouvent des emplois un maximum.
Comment on fait pour bosser avec une brand comme ça? Comment on fait pour raconter son histoire tout en sachant qu'il y aura toujours une petite barrière à l'entrée entre la commu sur le discours qui effectivement est un peu étatique et donc qui peut créer un peu des clivages et en même temps, bah il faut que cette marque-là, qui vient de se réinventer un petit peu, bah, continue à faire passer ses messages. Est-ce qu'il y a une, vous avez une posture par rapport à ça? Est-ce que vous les conseillez un peu spécifiquement? Comment vous les amenez à dire, bon, on va faire ça. Oui, il y aura des haters. Oui, ça va peut-être un peu frotter, mais on va continuer. Comment vous bossez avec eux?
Avec les mêmes clés que celles que j'ai citées au début. C'est-à-dire vraiment l'authenticité et l'incarnation. C'est-à-dire que le meilleur exemple, par exemple, c'est le premier qu'on ait fait avec eux. Ils faisaient des tables rondes de 2 heures. Avec plusieurs intervenants. Et du coup, l'information, elle était un peu perdue là-dedans. Il fallait suivre les 2 heures. Et puis, pour trouver l'info qui nous correspondait, nous, c'était plus compliqué. Nous, on est venu avec une idée d'émission, parce que c'est quelque chose qui se faisait déjà pas mal sur YouTube à l'époque. Et donc, de la rubriquer comme ça pourrait être fait sur des contenus de YouTubeurs à l'époque. Et la réponse, elle a été exceptionnelle, puisque sans aucune sponsor, et c'est quasi plus arrivé depuis, mais France Travail s'est retrouvée dans les tendances YouTube avec cette émission et elle est incarnée par une personne de l'équipe de la communication de Pôle emploi qui est très, très bien placée pour bien connaître ces sujets. Et donc, quelles étaient les rubriques? C'est un Draw My Life, vraiment quelque chose qui se faisait à l'époque sur YouTube, un micro-trottoir. On répondait à des tweets, donc vraiment, on a pris le format qu'on avait l'habitude de voir sur les réseaux. Et oui, on sait qu'il y a des haters, mais on va leur répondre honnêtement et on va leur répondre avec le plus d'authenticité possible. Et quand ça sort du cadre du contenu en lui-même, parce que parfois, oui, les gens vont dire sur un France Travail, mon dossier numéro XXX, là, très vite, on renvoie au conseiller parce qu'il y a aussi des problèmes de confidentialité, évidemment, qu'on peut pas donner. Mais en vrai, je trouve que c'est un challenge tellement plus intéressant parce que il y a tout à faire et quand ça fonctionne vraiment beaucoup, beaucoup plus.
On peut aussi se dire, c'est plus compliqué et en même temps, c'est, on peut comprendre aussi les gens qui sont en dissonance entre l'image que va renvoyer une brand comme ça, mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres hein, qui ont une image hyper corpo, etc. Et la réalité qui est pas si simple, notamment beaucoup d'institutions publiques. Et ce que je raconte est quand même assez partagé. Il y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent pas hyper bien aujourd'hui. Donc comment on se met dans cette posture de comprendre ceux qui, oui, la brand elle est cool et oui, les contenus sont cool. Et ça, good job. Mais comment on fait aussi pour se dire que ces gens-là, il faut les comprendre parce que bah foncièrement, quand tu vas dans ta boutique du coin, et la relation, l'expérience n'est pas forcément la même. Donc, comment vous gardez ça en tête, tu vois, sans se perdre, parce que l'accompagnement, j'imagine qu'il est très bon, et les contenus, moi j'ai vu un peu le rebranding, j'ai vu passer aussi les contenus, ça marche très bien. Maintenant, c'est comment on arrive à se connecter à ces gens-là qui sont quand même dans le concret, tout en gardant notre posture de marque, en racontant notre message, en étant capable aussi, tu l'as dit, hein, communication conversationnelle, hein, c'est les réseaux sociaux, hein, de garder cette discussion-là qui... le but, c'est pas de transformer la page TikTok de France Travail en service après-vente, entre guillemets, non. Comme à l'époque de Twitter.
Exactement.
Fut un temps, mais c'est de se dire, faut qu'on arrive à garder un peu l'écoute de ces gens-là qui, foncièrement, on sait que ça marche pas partout hyper bien, ce genre de choses.
Complètement. Déjà, juste pour resituer aussi en termes de branding France Travail, ils ont pas fait ce rebranding, eux. Et là où, par exemple, moi, je trouve qu'ils sont très intelligents, c'est qu'ils l'ont pas fait avec des agences. Ils ont tout fait en interne, le rebranding de leur logo, le retravail. Enfin, vraiment, ils l'ont fait en interne pour montrer on est une institution publique, on jette pas l'argent par les fenêtres. Tout ce qu'on fait, ça a du sens. Et pour répondre à comment est-ce qu'on garde le cap aussi, parce que évidemment qu'on est conscient qu'il y a des failles, parce que c'est une institution, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-bas, et forcément, chaque humain est différent, et il y en a qui travaillent moins bien, d'autres qui travaillent mieux. Mais ce qu'on a la chance de voir aussi, c'est que comme on a les chiffres avec eux, c'est le nombre d'emplois qu'ils arrivent à faire avoir, c'est le nombre de services qu'ils mettent en place aujourd'hui, parce que quand j'ai créé ma structure, ça m'a permis pendant 2 ans de pas me poser de questions sur justement le modèle économique de l'agence, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. Mais j'avais absolument pas notion de tout ça. Donc en fait,
donc se remettre sur le concret, les chiffres.
Et c'est de redonner la parole parfois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission à certaines personnes. Quand on sait que le problème de la personne, il peut parler à d'autres. Évidemment, je redis ce que je disais, mais quand on dit mon numéro de dossier, il a pas été répondu, ça, on peut pas répondre et c'est pas possible. Ouais. Mais quand ça parle à d'autres personnes et que je vais dire n'importe quoi, je veux retrouver tel emploi et je sais pas comment le faire, et que Pôle emploi dise bah en fait il y a une formation qu'on peut vous payer, il y a ça aujourd'hui, il y a tout cet écosystème d'offres qui sont mises en place, il y a un site dédié, il y a, en vrai, pour travailler avec eux, on voit que même si c'est pas parfait, ils mettent tellement de choses en place que heureusement qu'ils sont là pour faire tout ça. Et nous, notre rôle, c'est effectivement de leur dire gardez un rapport très particulier avec les gens, et répondez-leur. On essaye de le faire d'une certaine manière, parce qu'encore une fois, il y a la confidentialité. Mais on essaye de, par exemple, sur TikTok, la ligne éditoriale, pendant longtemps, c'était les conseillers qui répondaient aux commentaires en disant, bah, tiens, ça a été pointé. On va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça. Et c'est la meilleure réponse que tu disais tout à l'heure. Ne pas se dissocier de ce que peuvent dire les gens.
Ouais, mais c'est ça. Et c'est cool aussi. Et c'est pour ça que je t'interroge là-dessus, hein, parce que c'est vrai que c'est bien de voir vous qui êtes un peu aux commandes et qui êtes derrière tout ça dans les coulisses, de voir un peu la manière dont vous réfléchissez avec votre client, etc. Pour ce type de structures qui sont quand même en frontal avec les Français tous les jours, que Dieu fait, qui sont dans leur quotidien tous les jours. On parle de ça, mais on peut parler aussi d'autres brands, d'autres institutions, d'autres services. Et ouais, c'est des gros enjeux, donc c'est hyper cool que tu me répondes là-dessus de manière hyper transparente. J'ai 2 questions pour terminer, enfin une question divisée en 2 parties. La première partie, c'est où est-ce qu'on vous voit dans 6 mois? Et ensuite, où est-ce qu'on vous voit dans 6 ans?
Toujours plus loin. On a envie de grandir, mais de grandir bien. Donc, on a envie de se consolider déjà dans notre approche actuelle et de bien se faire connaître sur cet ADN de l'organique. Quand on a commencé... Comme toutes les jeunes agences, on avait déjà cet ADN, mais on s'est dit, on va faire tout ce qu'on peut pour se faire connaître. Et donc, par exemple, on avait une branche événementielle avec laquelle on faisait beaucoup d'événements. Sauf que, effectivement, ça brouillait un peu les images sur notre vrai positionnement. Aujourd'hui, on se recentre 100% sur l'organique et sur l'accompagnement des réseaux. Donc, dans 6 mois, bah, toujours plus de réseaux et toujours plus d'accompagnement sur des nouvelles marques, que ce soit des institutions publiques, on travaille là avec sur un nouvel appel d'offres, ou que ce soit sur des marques de grande conso, on a la chance vraiment de travailler avec des très gros groupes. Donc, c'est de continuer à avoir d'autres gros groupes qui nous font confiance par plein de biais différents. Et dans 6 ans, je pense qu'on sera plus tout seul. C'est-à-dire que si on veut grandir, un des moyens, c'est de grandir en groupe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se voit beaucoup chez nos concurrents. Il y a plein de groupes social media qui existent, Biggie ou Webedia, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, cette force du groupement, elle permet aussi pour une marque d'avoir plusieurs réponses en même temps. Pourquoi je dis ça? On a eu les cas récemment sur une marque que je peux pas encore citer parce que les discussions sont encore en cours, mais nous, on gère l'écosystème réseaux sociaux en France. C'est une marque internationale. Et la marque nous a dit, écoutez, nous, on fait un appel d'offres international. sur tous les réseaux sociaux et aussi sur la marque au global. Sauf que vous êtes trop petit pour répondre à cet appel d'offre-là. Et nous, on veut pas travailler qu'avec des agences spécialisées. Et donc, à la fin, l'appel d'offre a été fait. C'est Publicis qui remporte l'appel d'offre. Bravo à eux. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. Donc, on se dit, si on veut aller chercher vraiment des gros contrats demain sur l'échelle européenne, si on veut viser plus gros, aujourd'hui, on a un petit plafond de verre. Même si on est hyper expert, même si on est hyper fort et qu'on peut nous reconnaître pour ça, on sera toujours dans l'ombre des gros. Si on fait pas partie d'un groupe, on le sait, on n'a pas, demain, on n'a pas la vocation dans 6 ans d'être un publiciste à nous tout seul. Donc, on se dit, on veut aller très haut, mais pour aller plus vite, il faut qu'on soit plusieurs. Donc, je pense que dans 6 ans, on sera dans une dynamique de gros.
En rachat d'autres structures, en intégrant un autre.
Exactement, existant. Deux solutions. Soit nous, on fera de l'acquisition, soit on essaiera de se rajouter dans des groupes. On nous a déjà parlé. Pour l'instant, on est dans des discussions. C'est pour ça que je dis, je pense que comme on a entamé des discussions, dans 6 ans, j'espère qu'elles seront abouties quand même.
Ok, écoute, merci pour tes infos. Évidemment, tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur vos solutions, sur vos différentes campagnes et vos réalisations, je vous invite à suivre la page de Boomerang sur J'ai un pas dans la com. On y trouve tout, a priori.
J'espère.
Et j'espère aussi voir des prix cette année. En tout cas, merci à toi, David, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci à toi de m'avoir invité, c'était très intéressant.
Je suis ravi de t'avoir eu. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Merci à toi, David, merci à tous. Moi, je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.